Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le Libre Journal des économistes, créé par Jacques Garello et dirigé par Olivier Mérès, diffusé en direct mercredi 30 janvier 2019 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des économistes, l'émission ultra-néo-turbo-libérale sauvage de Radio Courtoisie, l'émission qui veut tout privatiser également, et une petite parenthèse libérale dans un monde très étatisé. Le thème de l'émission du jour, c'est Grand Débat National, la fiscalité. Alors je mets un petit peu d'ironie dans Grand Débat National, mais nous verrons cela ensemble, et je suis accompagné pour traiter ce sujet par trois invités de marque, par privilège de genre et ordre alphabétique, Simone Vapler, Victor Fouquet et le professeur Pascal Salin. Je rappelle que cette émission est diffusée en direct, donc si vous nous écoutez dans la tranche de diffusion du mercredi de midi à 13h30, vous pouvez poser vos questions au secrétariat de Radio Courtoisie au 01 46 51 00 85, aussi par courriel à radiocourtoisie.fr, sur le site radiocourtoisie.fr ou par courriel à courtoisie@radiocourtoisie en un seul mot.fr. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc un petit peu plus longuement mes invités. Alors, Simone Vapler, vous êtes analyste financier. Vous avez d'abord été d'ailleurs ingénieur aéronautique et puis spécialiste des métaux et des matériaux. Sur les marchés, non ? Enfin, j'imagine.
Dans l'industrie, oui.
D'accord. Et puis désormais, donc vous êtes analyste financier et directrice de la rédaction des publications Agora. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, ou quatre, je crois. Pourquoi la France va faire faillite et ce que vous devez faire pour en sortir. Main basse sur votre argent. Et puis, même chose, je crois, ce que vous devez faire pour éviter. Et puis, pouvez-vous faire confiance à votre banque en 2014, je crois, les deux premiers, c'était 2012 et 2013. Et puis, la fabrique de pauvres en 2015. Donc, tout sujet, disons, qui sont liés. Enfin, vous êtes de toute façon une fervente défendresse des idées libérales. Vous avez aussi un petit un blog qui, comment est-ce qu'on dit en français, je ne sais plus quoi, en tout cas blog GUE. Et donc qui est non à la société sans monnaie sonnante et trébuchante, mais ça s'appelle non à la société sans cash, précisément, dans lequel vous défendez le droit pour les gens de continuer à utiliser de la monnaie. Alors, je crois qu'on se heurte quand même à une pression très très forte en la matière. Il y a une vraie volonté de nous supprimer la monnaie sonnante et trébuchante. J'ai vu récemment que 36% des Suédois ne se servaient jamais de monnaie sonnante et trébuchante, de pièces et de billets. On a entendu, je crois, en octobre 2017, Édouard Philippe et Gérald Darmanin dire que l'objectif 2022 était peut-être la suppression du cash, de la monnaie sonnante et trébuchante en France.
Oui, c'est un peu un projet au point d'arrêt, parce que curieusement, je crois que le développement des crypto-monnaies a un peu freiné les ardeurs dans le sujet, parce que probablement, il faut toujours se poser la question, quand on supprime une liberté de choix, c'est pourquoi ? Après tout, si les gens veulent utiliser des billets et des pièces, ça fait de mal à personne. Donc pourquoi supprimer la liberté de choix ? Et puis on s'est aperçu que on pouvait retrouver une liberté de choix si on basculait vers les crypto-monnaies. Et puis les mêmes banquiers centraux qui vous expliquent que le bitcoin, ça vaut rien, c'est adossé à rien. Ils sont en train de démontrer que leur propre monnaie ne vaut rien, n'est adossée à rien. Donc il y a eu un petit peu de gêne et on sent un peu de flottement là sur ce sujet.
C'est une très bonne chose alors. Non, parce que c'est pas simple de donner de l'argent de poche à ses enfants par carte bleue, disons. Enfin, vous signalez d'ailleurs sur ce site internet toutes les raisons qui militent en faveur du maintien de monnaie sonnante et trébuchante. Je crois que c'est très convaincant, mais enfin, le fisc aime bien mettre son nez partout, comme on le sait. Alors, on va en parler deux petites secondes quand j'aurai fini de présenter les invités. Vous voulez vous présenter sur une liste vous-même?
Oui, alors.
Mouvement pour la liberté et la démocratie directe.
Alors, voilà, ML2D pour les intimes. Pour le moment, il y en a très peu. En fait, c'est un engagement politique, ça ne m'était jamais arrivé avant. Mais il se trouve que c'est un mouvement qui soutient trois mesures concrètes. À 0 euro et qui seront capables de transformer très profondément, je pense, la société française, beaucoup plus profondément que tous les programmes venus d'en haut.
Alors, voilà. On va voir ça dans une seconde. Victor Fouquet, alors vous êtes chargé d'études au Sénat, vous êtes essayiste aussi, vous êtes jeune surtout.
Oui, et 28 ans.
Et vous avez écrit un livre, La pensée libérale de l'impôt, qui est une anthologie de tous les meilleurs auteurs libéraux, d'ailleurs préfacé par Pascal Salin ici présent, et qui a été récompensé par l'ALEPS d'ailleurs du prix du livre libéral 2017, ça devait être.
Oui, oui, c'était ça, 2017.
Voilà, du prix du livre libéral. Bon, alors c'est une anthologie absolument passionnante que je conseille de toute façon à tout le monde. Elle est éditée chez Libre-Échange, si je ne l'ai pas dit, et dans laquelle on voit une trentaine, c'est ça, d'auteurs libéraux. Une quarantaine d'auteurs libéraux. Ça remonte à Bois-Guilbert, ou enfin, je sais plus.
Oui, Vauban, Bois-Guilbert, voilà, jusqu'à Philippe Nemo
et Pascal Salin, oui, voilà.
Qui m'a fait l'honneur de le préfacer.
Ouais, et donc dedans, on voit beaucoup de choses passionnantes et on se rend compte qu'il y a, beaucoup d'arguments très très intéressants et parfois très divers, mais il y a quand même une constante qui est très intéressante, c'est que tout le monde recommande d'avoir des assiettes larges, des taux faibles qui permettent le développement de l'activité économique, pas de niche fiscale, hein, je crois que c'est ça les grands
points. Tout ce que nous n'avons pas en France.
Tout ce que nous n'avons pas chez nous, et ça va être le sujet d'aujourd'hui. Enfin, Pascal Salin, vous êtes professeur émérite d'économie de l'Université Paris-Dauphine, vous êtes aussi président de l'ALEPS, vous avez été d'ailleurs président de la Société du Mont-Pèlerin, la célèbre société de pensée libérale, internationale, fondée par Friedrich Hayek au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez publié de nombreux ouvrages aussi. Pour m'en tenir à ceux qui sont un petit peu volumineux, publiés chez Odile Jacob, je pense à Libéralisme en 2000, qui était un livre très pédagogique, qui intéressera tout le monde. D'ailleurs, le français N'ayez pas peur du libéralisme est aussi très pédagogique en 2007. Peut-être que vous vous étiez rendu compte entre les deux que ce mot faisait un petit peu peur. Revenir au capitalisme pour éviter les crises en 2010, la tyrannie fiscale en 2014 et les systèmes monétaires des besoins individuels aux réalités internationales en 2016. Et puis chez Libre-Échange, vous avez publié par exemple Concurrence et liberté des échanges en 2014. Vous avez écrit quelques autres livres, et puis beaucoup de contributions dans des ouvrages collectifs. Voilà. Le sujet du jour, donc ça va être d'essayer de proposer très concrètement parce que je crois qu'il est important de dire que les théories libérales sont, enfin, ou les idées libérales sont très riches et de toute façon variées, complexes, etc. Mais ce ne sont pas des livres de recettes non plus. On arrive à dire évidemment si une idée est libérale ou si elle est antilibérale assez facilement, mais il n'y a nulle part marqué qu'est-ce qu'on fait dans un pays qui a 2 350 milliards de dettes. Comment on résout ce problème Chaque situation est unique.
Pas avec des discours à 10 minutes et 10 milliards.
Voilà, c'est ça, oui. Pas par exemple.
Clairement.
Et donc, nulle part, il n'est marqué dans aucun ouvrage d'Hayek qu'il faudrait que les impôts soient de 12%, 13%, 17%, etc. Donc, l'émission du jour. Alors, on a fait une émission avec Philippe Nemo il y a quelques mois, autour de son livre Philosophie de l'impôt, dans lequel il réfléchit beaucoup, disons, à. Il réfléchit en philosophe à toutes les raisons qui justifient l'impôt, qu'est-ce qui rend un impôt légitime, etc. Mais là aussi, sans donner non plus de chiffres précis, alors qu'aujourd'hui, on va quand même s'efforcer de donner des chiffres un petit peu précis. Donc si nos auditeurs ont plein d'idées dans le domaine fiscal, ben voilà, le grand débat national est ouvert aujourd'hui dans le studio de Radio Courtoisie pour les écouter. Alors on va quand même commencer un tout petit peu par parler de ce grand débat national et savoir un petit peu ce que vous en pensez, parce que s'il y a un côté, me semble-t-il, un petit peu ridicule, je ne sais pas si les Suisses ont encore la charité de se pencher sur nos institutions, mais enfin, je pense que ça doit les faire rire de voir un pays qui n'a consulté personne pendant au moins un demi-siècle, on va dire, qui tout d'un coup, en deux mois, entre le 15 janvier et le 15 mars, veut faire remonter absolument tout. Il y a, paraît-il, déjà plusieurs centaines de milliers de contributions dans les cahiers de doléances françaises. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu...
Deux mots,
oui,
trois mots.
Non, comme vous voulez. Oui.
Bah alors, grand débat, grand blabla.
Oui, voilà, oui, par exemple.
Et juste une expérience concrète de quelqu'un que je connais qui s'est prêté au jeu de l'interface Internet. Et donc, il est arrivé à la case climat. Alors, de quoi avez-vous peur? Il y a plein de choses dont il faut avoir peur. Il y avait une case autre. Et dans la case autre, il a commencé à remplir détournement de fonds publics. Mmh. Et il a eu la surprise de voir que finalement, son commentaire n'était pas retenu. Voilà.
Oui, il semblerait que ce débat soit un petit peu confisqué, d'ailleurs.
Biaisé, oui.
Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron dit qu'aucune question n'est tabou et que tout peut être abordé. Et puis, quelques lignes plus loin, ils expliquent que ça ne peut pas être mis en cause. Là-dessus, on est d'accord. Enfin, il n'y a pas d'autre manière de penser, alors, entre autres sur le réchauffement climatique. Mais même chose pour l'accueil des migrants. Ils considèrent que ça, c'est des choses qui ne peuvent pas faire l'objet du débat. Disons.
Mais ce qui est clair, c'est que c'est quand même un révélateur que les gens se sentent trahis par leurs représentants. Et donc, c'est un révélateur que la démocratie représentative en France semble malade. Je le vois comme ça.
La démocratie française est malade. Alors là aussi, je vais reciter Philippe Nemo. Il a écrit, dans La France aveuglée par le socialisme, un très bon chapitre qui s'appelle La double oligarchie française, dans laquelle il montre que notre pays est gouverné par deux oligarchies. Une première oligarchie des politiques et des fonctionnaires, disons, qui évidemment font passer des lois en leur faveur systématiquement. Et que la seule autre oligarchie, c'est celle des syndicalistes et des casseurs. Ce qu'on voit d'ailleurs finalement avec les gilets jaunes, hein. et que finalement le vote n'a à peu près aucune valeur en France. La seule chose qui compte, c'est soit vous êtes politique et fonctionnaire et vous avez une influence, soit vous êtes casseur et syndicaliste et vous avez une influence. Si vous ne faites partie d'aucune de ces deux catégories-là, vous ne servez à rien et votre vote est, pour ainsi dire, considéré comme nul. C'est dramatique.
Si, on sert à être contribuable.
Oui, ça, bien sûr.
Pascal Salon. Quand même, il y a une caractéristique de la France, à savoir qu'il y a des idées dominantes extrêmement répandues, qui ne sont pas des idées libérales, et qui sont extrêmement nuisibles et dangereuses, et les politiciens reflètent ces idées dominantes. Et il y a une sorte même de cercle vicieux, parce qu'ils reflètent ces idées, mais en même temps, ils les créent. Il ne faut pas oublier qu'en France, il y a un monopole de l'État dans l'éducation. C'est quand même quelque chose de très important. Et donc, on n'enseigne que les idées dominantes de manière générale. Et ce qui serait souhaitable, c'est que ces idées dominantes puissent être attaquées, qu'elles diminuent, que les gens comprennent qu'il y a d'autres idées qui sont beaucoup plus importantes. Et donc, le grand débat national n'apportera pas grand-chose, parce qu'il apportera en majorité, tout au moins, des idées que l'on connaît bien.
Bien sûr, les idées libérales, entre autres, puisque c'est ce qui manque le plus à notre pays, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça fait des siècles, on va dire, que les libéraux les défendent. Ça fait 50 ans et plus voilà. 52 ans que l'ALEPS existe pour les proposer. Cette émission en parle toutes les 4 semaines et voilà, enfin, personne ne s'en inspire et c'est bien dommage. Les idées sont là, mais bon, alors s'il y a des auditeurs qui ont le courage d'aller remplir des cahiers de doléances avec les idées qu'ils entendront lors de cette émission, on les en remercie par avance, mais je ne crois pas beaucoup, en tout cas, que ça puisse fonctionner. Et puis, il faut bien dire que c'est un petit peu se moquer du monde, c'est-à-dire que les Suisses, ils votent vraiment sur les... ils débattent d'abord longuement pendant 18 mois à peu près. D'abord, l'essentiel de leur vote, ils votent tous les 3 mois, l'essentiel de leur vote porte sur des questions locales. voilà, un petit peu cantonal et beaucoup moins encore fédéral, disons. Donc c'est, et ils ont 18 mois pour en débattre. Et à la fin, c'est pas qu'on les écoute, ou c'est pas les soviets qui discutent entre eux, et ensuite le président du soviet suprême qui décide ce qu'il veut prendre de ces soviets. Disons, on est vraiment dans une décision. Hein, les Suisses appellent le peuple le souverain. Donc il l'écoute, Pascal Salin. Exactement.
Oui, je crois que c'est important justement de souligner que les référendums, pour la plupart du temps en Suisse, ils concernent des questions locales, donc des décisions où les prélèvements fiscaux sont proches des citoyens. Et on m'avait raconté cette histoire dans un canton, il y avait eu un référendum pour créer, je crois que c'était des logements sociaux, quelque chose comme ça. Puis après, ils ont fait un référendum pour le financement de ces logements sociaux. Et alors, le premier référendum avait été accepté, mais le deuxième a été refusé.
D'accord, oui, bien sûr. Non, ils accordent une très grande importance, comme les Anglais en ce moment, d'ailleurs, avec le Brexit. Il n'est pas question pour eux de revenir, disons, sur ce que le souverain, le peuple, en l'occurrence, disons, a décidé, quoi. Bien. Parlons un petit peu de, précisément, puisqu'on a à peine abordé le chèque scolaire, le chèque scolarité de votre mouvement MLDP. Alors, quels sont ces...
MLDD, démocratie directe. On n'est pas encore dopé. Oui, voilà, donc, c'est un mouvement, je précise, qui va présenter une liste aux élections européennes et qui entend faire passer, justement, certaines idées libérales. Donc, on a trois axes principaux. Le premier, il est assez européen, il vient avant le chèque éducation pour cause d'échéancier électoral, c'est réclamer ce que vous valez vraiment. Ce que vous valez vraiment, c'est le salaire complet, c'est-à-dire c'est le net, plus les charges patronales, plus les charges salariales. Ça vous permet de reprendre la main sur les prélèvements sociaux.
Il faudrait y ajouter les prélèvements à la source désormais.
Oui, mais on a été dépassé par l'actualité.
Justement, au lieu de créer le prélèvement à la source pour l'impôt sur le revenu, il aurait fallu le supprimer pour les cotisations sociales.
Alors, c'est une réforme à 0 €. Le jour où elle est adoptée, elle ne change rien, si ce n'est que l'URSSAF, comme il y a une obligation, quand on a son salaire complet, on prévoit une obligation d'assurance, donc l'URSSAF, au lieu de traquer les patrons d'entreprise, iront vérifier si monsieur et madame Michu sont assurés. Mais ça permet de reprendre la main sur un énorme poste de dépenses publiques, puisque grâce au gilet jaune, là vous... peut-être que les auditeurs vont faire une apoplexie, mais
pas du tout, au contraire. D'ailleurs, il faudrait d'ailleurs que je dise un mot là-dessus, parce qu'on nous a un petit peu accusé d'en dire du mal.
Grâce au gilet jaune, ouais. Enfin, donc le Trésor s'est livré à une opération de communication et on sait où passent 1 000 euros de dépenses publiques. Et sur les 1 000 euros de dépenses publiques, notre première mesure s'attaque aux dépenses sociales, de protection sociale, qui en représentent, tenez-vous bien, 575 euros. Donc on dit aux gens, la sécurité sociale... C'est certainement formidable, l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance vieillesse. C'est tellement formidable, d'ailleurs, que ça ne craint absolument pas la concurrence. Mais simplement, vous reprenez le contrôle sur ces sommes et vous décidez à votre échelon, c'est là où on reboucle avec l'Europe, ou de passer par les excellentes prestations de l'État français, ou d'être en conformité avec la signature de nos engagements européens et de passer par un prestataire agréé dans les pays de la communauté européenne, de l'Union européenne. Voilà. Donc ça, c'est la première mesure.
Alors, sur le salaire complet, il faut le dire, il y a un petit peu des différentes acceptions de ce terme. Disons, parfois, on considère que c'est seulement de mettre en bas du salaire le chiffre complet de ce qui est le coût, disons, pour le patron d'un salarié donné, sans compter, bien évidemment, le poste de travail, la moquette, etc. Mais enfin, en tout cas, le coût salarial complet, voilà. Parfois, c'est le fait de regrouper, qu'on sache quelle est, parmi toute la part qui est prélevée, celle qui va à la retraite, celle qui va à l'assurance médicale, l'assurance maladie, etc. Et puis, il y a la troisième part qui est de dire, tout cet argent vous revient, vous l'avez en main, éventuellement avec des obligations d'assurance ou de choses
voilà,
comme ça.
Voilà, avec des obligations d'assurance, mais vous l'avez en main, vous reprenez,
concurrentielle, oui.
Vous reprenez le contrôle de cet argent.
Et bon, les gens sont responsables dans ce cas-là.
Voilà.
Et ils se rendent compte ce que ça leur coûte exactement.
Exactement.
Alors, la réforme à 0 €, c'est celle qui consiste à changer la forme du bulletin de salaire. Ce que vous proposez là, c'est une réforme qui est quand même très...
Non, c'est... Oui. ce que le patron versait à l'URSSAF, à différents organismes, puis aux salariés, il le verse directement aux salariés. C'est, en plus, c'est une réforme, je veux dire...
L'URSSAF ferme le jour même.
Comment ?
L'URSSAF ferme le jour même.
Non, ils peuvent très bien se recycler, comme je vous l'ai dit, en contrôleur de monsieur et madame Michu, pour savoir si monsieur et madame Michu sont correctement assurés à la maladie, à la vieillesse, au veuvage, peu importe.
Ça réduit beaucoup l'ampleur, en tout cas, de la mission.
Je m'en réjouis. Ça fait beaucoup de salariés aussi.
Non, c'était pour être clair vis-à-vis des auditeurs.
Donc, c'est une mesure à 0 €, parce qu'on a l'impression qu'elle ne change pas grand-chose, mais elle remet, alors on parlait de la démocratie directe, hein, puisque notre mouvement s'appelle démocratie directe, eh bien elle remet le pouvoir de décision dans les mains des gens. Alors, en général, on entend quelques lamentations sur la solidarité. La solidarité n'a rien à voir avec ces prélèvements-là. Il faut savoir que la CMU, le minimum vieillesse, sont financés, eux, par l'impôt. Là, on est dans les prélèvements. Ça n'a rien à voir. Deux compartiments différents. Mais effectivement, les gens sont capables de choisir une assurance automobile. Ils sont capables de choisir leur franchise. On pourrait très bien concevoir qu'en cas de maladie, il y ait 2 jours, 3 jours, 4 jours, ce que les gens veulent, ce qu'ils choisissent de franchise, d'indemnité, et qu'ils s'auto-assurent.
Victor Fouquet.
Le salaire mensuel net moyen d'un Français, c'est 2 250 €. Chargé, c'est 3 900 €. Donc on verrait le gain.
C'est 87%
absolument
d'augmentation, mais ou surtout de dépenses contrôlées. Parce que de dire augmentation est un peu trompeur, puisqu'il va falloir redépenser en assurance. Mais on reprend le contrôle. C'est ça le principe, en fait.
Et on reprend sa dignité. La mythologie, l'illusion de la gratuité qui donne à penser que les biens que procure l'État sont gratuits.
Oui.
Sur un salaire moyen net mensuel de 2 250 €. Donc chargé, il est à 3 900 €.
Moi, j'ai plus. Mais après, ça dépend cadre, pas cadre. Enfin, là, on sombre dans la complexité qui permet de tout noyer, comme d'habitude.
On sait que les dépenses annuelles moyennes d'un Français de santé, c'est 6 000 € par an. Au titre de ses cotisations, de son salaire mensuel, il va verser de l'ordre de 500 €. C'est-à-dire qu'en 6 mois, arrivé à la moitié de l'année, il aura cotisé pour la totalité des soins et des besoins médicaux qui sont les siens. Donc il pourra affecter l'autre moitié à d'autres fins, d'autres loisirs, d'autres biens de consommation qui ne sont pas ceux de la santé.
Ou de l'épargne, ou enfin ce qu'il veut, ça le regarde.
Pascal Salin.
Je crois que c'est une réforme tout à fait fondamentale et je suis surpris, je suis même tenté de dire choqué que des gouvernements de droite dans le passé n'aient pas décidé cette mesure qui ne coûte rien, mais qui a de très gros avantages. Parce que comparons justement ce qui se passe avec le système actuel et puis avec un système d'assurance pour la santé, par exemple, privée. Dans le système actuel, les cotisations sont proportionnelles aux revenus. Et donc, il y a une désincitation pour les gens à faire des efforts, à travailler, etc. Donc, c'est très destructif. Par contre, dans un système d'assurance privée, les gens sont incités à travailler davantage, à faire plus d'efforts pour gagner plus et pouvoir mieux s'assurer. Donc, c'est des logiques totalement différentes. La première logique est une logique destructrice, c'est la logique française habituelle.
Oui. Alors, autre mesure, le chèque scolarité, avec laquelle on est forcément en accord ici, puisqu'on a déjà fait des émissions sur le sujet, par exemple avec Jean-Baptiste Navet.
Alors, éducation, effectivement, que soutient que préconise le MLDD, le mouvement pour la liberté et la démocratie directe. Alors, démocratie directe, hein, les libertés de choix.
Bien sûr.
On supprime la carte scolaire, c'est évident. Enfin, on ne voit pas pourquoi on s'enfermerait là-dedans. Et les parents choisissent l'établissement dans lequel ils veulent inscrire leurs enfants. Et l'établissement reçoit de la part de l'État une allocation correspondant au coût de scolarité d'un enfant au niveau auquel il est inscrit. Donc, alors oui, il y aura des établissements qui crouleront sous les inscriptions. Oui, il y aura des établissements qui fermeront. Mais à nouveau, il y aura une émulation. Quant à l'aspect sélection, etc., il faut regarder qu'aujourd'hui, il y a des associations comme Espérance Banlieue qui sont totalement financées par le privé, qui ouvrent des établissements dans des quartiers difficiles, où on demande 50 ou 70 euros par mois pour chaque enfant, et qui croulent sous les demandes. Donc il n'y a pas de problème. Il y a simplement, il faut remettre un peu de concurrence dans tout ça, il faut que les parents soient libres de choisir, de décider à leur échelon.
C'est l'évidence. Donc on ne peut être que d'accord. Une troisième mesure, peut-être rapidement pour...
Alors, la troisième mesure, elle est un petit peu... Donc c'est le retour à la démocratie directe, c'est-à-dire que on prend les décisions au plus petit échelon possible, à la Suisse. Vous avez parlé de la Suisse en début d'émission. Alors, ça fait rire. Moi, il se trouve que dans ma belle famille, mon mari est une grand-mère suisse. Ça fait rire les Français quand on est appelé à une votation pour savoir si le funiculaire va être rouge ou jaune. Mais les gens le voient tous les jours, leur funiculaire. Ils ont le droit de choisir s'il va être rouge ou jaune.
Et François Garçon dit d'ailleurs que c'est très important ces questions-là parce que précisément ça dépolitise le débat. C'est-à-dire que ce qu'il explique, c'est que en France, à chaque fois qu'il y a un référendum, c'est un plébiscite qui est demandé par le... Alors du coup, les gens votent contre la décentralisation pour faire partir de Gaulle. Ensuite, ils votent contre la Constitution européenne, ce dont je me réjouis d'ailleurs, pour faire partir Chirac, etc. Enfin, et donc tout est politisé. Et l'avantage des référendums suisses, c'est qu'ils sont nombreux, ils portent sur beaucoup de questions dont certaines paraissent très anodines, et finalement ça dépolitise toutes les questions. C'est-à-dire que les gens ne votent pas pour faire mal au maire, ou etc. Enfin, ils votent parce qu'ils préfèrent le rouge ou parce qu'ils préfèrent le jaune, et l'affaire, enfin, je veux dire, et ça rend toutes les questions, même les questions sur lesquelles il peut y avoir des...
Oui. Ceux qui prennent les décisions à leur échelon subissent les conséquences de leurs décisions. Donc si la décision est mauvaise à un petit échelon, eh bien, ça va se corriger assez rapidement. Plus vous prenez une décision à un grand échelon sans en subir les conséquences, plus vous devenez irresponsable.
Non, on est bien d'accord. Donc, on est aussi des grands partisans ici de la subsidiarité.
Raccordement avec les impôts, eh bien, on demande à ce que, à l'échelon national, l'État revienne uniquement à ses fonctions régaliennes. Alors, sur 1000 euros de dépenses publiques, on a appris avec stupeur et stupéfaction.
On le savait quand même, on le savait, on avait fait les calculs à peu près.
Voilà. Mais que c'était, selon le Trésor, 66 euros.
60 euros, je crois, non
60 60, euros. 66, auquel 66, on rajoute, alors on pourrait aussi rajouter 37 euros de passif, la charge de la dette. Donc voilà, alors ça, c'est l'impôt...
Ah non, moi j'ai 60 euros, 31 plus 25 plus 4, 29 plus 31, 60. 60 euros, non, non.
Administration publique. Ah oui, oui, pardon.
Il y a bien 60 euros. Oui, oui, oui. Donc sur 1000 euros de dépenses publiques, il y a 940 euros d'autres choses.
Oui. Hein,
et, 60 euros, voilà. Et 60 euros de
fonction régalienne.
De fonction régalienne. Alors, c'est-à-dire la fonction, ce qu'on demande à l'État, précisons juste un instant pour nos auditeurs qui n'auraient pas entendu parler de ça. Disons qu'il s'agit de la police, de la justice, de l'armée. Enfin, de la justice, on va dire d'abord, et puis de la police et de l'armée, oui, de telle manière que ça garantisse les libertés, finalement, des citoyens.
Oui, les droits naturels qui
peuvent
sont
derrière, qui peuvent
sécurité,
derrière,
propriété...
commercer tranquillement, qui peuvent discuter tranquillement, voilà. Etc., voilà, en toute sécurité.
Alors, donc ces trois mesures qui n'ont l'air de rien, qui sont, encore une fois, à 0 euro, puisque après, derrière, ben, on ne répète pas le millefeuille administratif. Après, derrière, tout se prend à chaque niveau compétent. On pourrait décider que c'est régional, peu importe, il suffit de le demander aux gens, ils sauront très bien.
Alors votre liste est déposée, etc.
Alors la liste va être déposée ces jours-ci. Le mouvement a un site internet qui commence à prendre forme, un fil Twitter, donc c'est ml2d.fr.
D'accord.
Voilà.
On réinvitera peut-être d'ici les élections européennes, puisque nous avons une autre candidate en la personne d'Emmanuel Gave qui se présente avec les amoureux de la France sous la direction de Nicolas Dupont-Aignan. Je sais qu'elle a beaucoup de mal à faire passer les idées libérales dans ce petit groupe.
Mais enfin, oui, disons, ça c'est. Voilà,
elle arrive à les faire un peu avancer, puis ça recule un peu, etc. Bon, bref. Voilà, donc ça n'est pas simple. Vous, l'avantage c'est qu'au moins, comme vous êtes absolument indépendant, disons, c'est vous qui.
On est indépendant. C'est vrai que promeut des idées libérales, mais on est absolument indépendant de tout parti et on ne peut être qu'indépendant de tout parti si on prône la démocratie directe. En fait, le langage, c'est de dire que le dégagisme, c'est stérile. On n'a pas... les partis extrêmes sont de toute façon des partis dangereux. l'alternance, c'est stérile, et la démocratie représentative telle qu'elle fonctionne en France, eh bien, ça ne marche plus. Donc, il faut changer, il faut arriver en démocratie directe. Donc, quand on demande à changer un système politique, bah, en général, c'est difficile de s'appuyer sur les politiciens qui sont en place. On a rarement vu des bouchers végétariens. Voilà.
Très bien. Alors, au titre des actualités libérales, je signale à nos auditeurs que le 27 février, nos auditeurs d'Île-de-France ou à proximité, disons, qu'il y aura une conférence de François Garçon à la LEPS, avenue Mac-Mahon à Paris, sur le référendum d'initiative citoyenne. Et donc, François Garçon est très bon connaisseur de la Suisse, il est franco-suisse. Il aime beaucoup la France, mais bon, il est conscient des différences qu'il y a entre les deux pays et de tout ce que nous aurions intérêt à copier. De la gouvernance suisse. Et je pense que la démocratie participative, celle de Ségolène Royal, notre grand débat national doit le faire un petit peu bondir. Mais il nous racontera ça le 27 février. Puisque j'en suis aux actualités libérales, sachez que le 6 février, c'est-à-dire mercredi prochain, il y a au même endroit à Paris, avenue Mac-Mahon, 35 avenue Mac-Mahon, une conférence de Philippe Erlin qui s'appelle Pouvoir d'achat, enfin qui s'intitule Pouvoir d'achat, le grand mensonge, laquelle est liée à son livre éponyme, voilà, donc dans laquelle il parle de l'indice INSEE, il parle dans le livre de l'indice INSEE et de tous ses défauts. Voilà, et puis sachez aussi, pour en terminer avec ces actualités libérales, que le dernier bulletin de l'ALEPS numéro 166 est sorti, avec des articles, dont un article de Pascal Salin, Animaux et œuvres d'art, dans lequel il nous parle du fait que, dans les deux cas, on essaye d'exclure les animaux des spectacles de cirque ou de rendre des œuvres d'art, mais en l'occurrence, on les ravit à l'admiration des amateurs d'art. Et donc voilà, un article aussi de Nicolas Lecossin qui a été publié dans le Figaro. Ce n'est pas l'Europe qui est ultra-libérale, mais la France qui est ultra-étatiste, qui est passionnant parce qu'il nous montre chiffres à l'appui que le problème ne vient surtout pas d'un ultra-libéralisme fictif, on va dire européen, mais bien de l'ultra-étatisme français. Voilà, alors sur les gilets jaunes, peut-être juste je voulais dire que j'ai peur qu'on ait été mal compris dans notre émission sur les gilets jaunes virent-ils au rouge. Il va de soi, mais peut-être que j'aurais mieux fait de le préciser, que nous sommes parfaitement d'accord avec les gilets jaunes sur les raisons qui les ont poussés dans la rue. Voilà, ça me semblait aller de soi, parce qu'on n'a pas attendu ni octobre ni novembre 2018 pour nous effrayer de la quantité d'impôts qui frappent les Français. C'est une rengaine qui est absolument permanente dans cette émission, je crois que nos auditeurs fidèles ne s'y sont pas trompés, puisque beaucoup nous ont dit apprécier l'émission. Et alors nous nous moquions d'autant moins des gilets jaunes que nous avions dans le studio Fergan Aziari et Emmanuel Gaff, qui étaient tous les deux porteurs du petit gilet fluorescent, voilà. Et donc la question que nous posions portait plutôt sur l'efficacité de la méthode et sur les conséquences de ce mouvement, pas du tout sur la légitimité de ces récriminations populaires. Et donc voilà, l'idée c'était de dire que les révolutions et les révoltes ne profitent jamais aux libéraux, et que tous les gens qui réclament la démission de Macron, à mon avis, risquent d'être très déçus par la misère qui suivra si des révolutionnaires prenaient le pouvoir à la place. Je crois qu'il faut respecter les institutions qu'on a, elles ont beaucoup de défauts, disons, mais elles ont l'avantage précisément d'éviter la tyrannie de la foule ou la tyrannie de la rue, disons, qui est peut-être une des pires, une des plus dangereuses. D'ailleurs, on le voit, puisque Jacquerie, on va dire. Pas tout à fait une jacquerie, puisque les gens continuent de payer leurs impôts, ils sont seulement dans la rue, mais cette jacquerie fiscale a commencé très libérale et finit de moins en moins libérale, disons, avec une remise en cause de l'ISF, etc. Pascal Salin ?
Oui, enfin, j'ai un repère, ouais. Ça aussi c'est une expérience, c'est-à-dire que j'ai un fils qui habite et travaille au Congo, donc je suis parti au Congo, c'était le premier week-end des Gilets jaunes, donc j'ai traversé un rond-point, j'ai vu un entrepreneur, enfin des entrepreneurs, des ouvriers agricoles, c'était à la campagne, des jeunes retraités, etc., et des gens qui disaient « on en a marre d'être des vaches à lait et laissez-nous bosser ». Voilà. Et puis ensuite, je suis parti au Congo. Alors, on m'a dit, est-ce que c'est grave? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Puis je suis revenu et c'était, il faut rétablir l'ISF. Donc il s'était passé quelque chose, j'ai pas trop suivi depuis là-bas, mais il s'était certainement passé quelque chose en 3 semaines ou 4 semaines.
Mais le mouvement des Gilets jaunes a toujours été un peu ambigu. Il y a eu un peu de tout, et il y en a qui ont profité de ce mouvement pour faire passer des idées que, pour notre part, nous considérons comme extrêmement critiquables.
Bien, alors, une première remarque d'un auditeur qui nous dit que blog se traduit ordinairement par gazette. Alors voilà, donc la gazette de comment ça s'appelait déjà ? Non à la société sans cash, nous sommes désolés. Alors, voilà. Et puis un autre auditeur qui me demande de réduire ma cadence. Je parle trop vite, alors je vais essayer de ralentir un petit peu. Voilà, donc on va passer donc à cette question très concrète sur la fiscalité, qui est le sujet de ce grand débat national dans le studio de Radio Courtoisie aujourd'hui. L'émission, je le rappelle, s'appelle Libre Journal des économistes. Nous sommes en présence de Simone Vapler, Victor Fouquet, Pascal Salin. Et le thème, donc, grand débat national, la fiscalité. Nous allons nous efforcer de trouver des mesures, disons, libérales qui correspondent à la situation française. Alors oui, ça fait longtemps que je voulais faire une émission là-dessus. Cette émission s'inscrit dans la continuité de deux autres, qui a eu lieu récemment avec Pascal Salin, qui était le 7 novembre, dans laquelle on essayait d'aborder la question de la baisse des dépenses. Alors on s'est surtout focalisé sur le chèque scolarité et sur le chèque assurance médicale, mais on aurait pu parler de France Télévisions, du défilé du 14 juillet, des subventions aux entreprises, aux associations, à la presse, à la toute la communication publique, toutes les festivités, etc. Toutes ces choses qui n'ont absolument pas besoin d'être gérées par l'État. Et donc c'était pour le sujet de l'émission, c'était pour dire qu'il y avait énormément d'économies à faire, parce qu'on entend souvent on est vraiment contraint par les budgets, qu'il est impossible de baisser. Non, il est possible de supprimer purement et simplement le ministère de la Culture, et j'encourage vivement tout programme politique qui comporterait ce volet. Pascal Salama.
Oui, je voudrais ajouter aussi que la France, comme on le sait, a malheureusement le record du montant de la fiscalité et des dépenses publiques, mais elle a peut-être aussi le record des réglementations. Il y a beaucoup de réglementations dont beaucoup sont inefficaces, nuisibles, etc. Or, les réglementations, ça implique des contrôles, donc ça coûte cher. Si on diminuait les réglementations, eh bien, on pourrait diminuer les dépenses publiques aussi.
Et ce qui est effrayant, c'est de voir que ce gouvernement multiplie les réglementations.
Absolument. Donc, et à chaque fois, c'est des contrôles en plus.
Ce sont des dépenses, inévitablement, qui viennent s'ajouter aux précédentes. Et la deuxième émission, c'est une émission que j'avais faite avec Fargan Aziari à l'été 2017, et qui portait sur un programme libéral pour la France. Alors, la conclusion à laquelle nous étions parvenus, c'était qu'un programme libéral pour la France devait partir des 2350 milliards de dettes de la France, qui est quand même un phénomène majeur. Et puis je pense que si on est un peu patriote, on doit souhaiter que la France honore sa dette. C'est la moindre des choses. Enfin, ça a amené à penser qu'il fallait de toute façon diviser au moins par deux le budget de l'État, disons. Mais surtout, la conclusion, c'est que je crois qu'il faut s'inspirer de cette méthode qui pourrait guider la suite de notre émission, cette méthode de mots américains, cost targeting et design to cost, qui sont des méthodes qui ont été mises au point. Alors je crois que c'est par l'armée américaine pour ses missiles, qui effectivement à chaque fois les producteurs de missiles, les Boeing, McDonnell Douglas, Martin Marietta, etc., proposaient des choses toujours plus merveilleuses et toujours plus chères, etc., jusqu'au moment où le missile coûte 10 millions. Donc au bout d'un moment, l'armée américaine a dit, on va faire le contraire, on va dire, le missile coûtera 1 million, qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour ce prix-là, hein, donc, et je crois que c'est assez intéressant, disons, comme démarche. Hein, donc, et c'est appliqué assez souvent quand on veut faire une mini-voiture dans l'industrie, on fait souvent la même chose, c'est-à-dire on dit, voilà, la voiture, les études de mercatique ont déterminé qu'il ne fallait pas qu'elle dépasse, je ne sais pas quoi, 12 000 euros. À partir de là, qu'est-ce que vous pouvez donner au maximum à nos clients pour 12 000 euros
C'est ce que nos amis anglo-saxons appellent design to cost.
Voilà, design to cost, ou cost targeting, selon le cas.
On conçoit en fonction d'un prix. Le prix est une contrainte. Voilà. Mais je voudrais revenir sur cette histoire de fonctions régaliennes. Alors, on a décrit quelles étaient, enfin, on a cité les fonctions régaliennes, police, justice, armée. Et pourquoi dit-on qu'elles sont régaliennes ? Parce que ça fleure bon l'Ancien Régime dans la pensée libérale. Et pourquoi il est juste qu'elles soient financées par l'impôt, sauf pour un petit courant de pensée qui doit être 0,01%, qui sont les anarcho-capitalistes ? C'est parce que la police, la justice et l'armée, il ne serait pas juste que ce soit des fonctions qui permettent de gagner de l'argent, des fonctions lucratives. C'est-à-dire que si on essaye d'envisager une police, une justice ou une armée dont le but est de gagner de l'argent, on arrive à des choses délicates.
C'est un grand sujet de débat, mais je pense qu'on ne va pas le tenir aujourd'hui, de savoir quelles sont les productions. Voilà, on va partir du principe que c'est l'État régalien.
Donc ce sont les fonctions régaliennes, et il est juste qu'elles soient financées par l'impôt. Tout le reste, il est anormal, bizarre que ce soit financé par l'impôt, si on découle de ce principe-là. Pourquoi ? Parce que, pour paraphraser Bastia, la concurrence, c'est l'intelligence. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a plus rien. Il y a monopole, il y a rente, etc. Donc, la liberté de choix, ça implique la concurrence, et la concurrence, c'est ce qui stimule l'intelligence humaine. Oui. Et donc, voilà pourquoi on pourrait très bien concevoir que la réforme fiscale idéale, ce serait un impôt proportionnel, ce que les anglo-saxons appellent flat tax, qui finance uniquement les fonctions régaliennes de l'État et que tout le reste soit délégué au plus petit échelon compétent. Voilà.
Bon, alors c'est très radical, peut-être que c'est la fin de l'émission, alors bon, ok, voilà, nous sommes arrivés au bout, avec Simone Vapler. Non, ce que je voulais dire par rapport à cette conception à partir des coûts, disons, c'est que la question du coût qui en découle, c'est quel niveau maximal d'imposition, et c'est la question que je pose à mes invités, quel niveau maximal d'imposition permettrait de faire face à une large part de nos obligations budgétaires sans handicaper la croissance et sans trop nuire aux libertés individuelles, c'est-à-dire demain matin. Nous savons que la dépense publique est énorme, ça va être assez difficile de tout réduire tout de suite, même si je suis pour la fermeture du ministère de la Culture, disons, voilà, cette fermeture risque de coûter cher. Tout à l'heure, vous parlez de chèque éducation, vous ne mentionnez pas le fait qu'il faut du coup les 3000 personnes qui sont rue de Grenelle au ministère de l'Éducation, qu'est-ce que vous en faites, Simone Vapler, hein? Bon, voilà, donc même ça coûte de l'argent, et donc même la réduction de l'État coûte de l'argent.
Mais je pense qu'il serait ravi d'avoir un rôle opérationnel dans un établissement florissant et croulant sous les demandes d'inscription.
Alors voilà, alors quel niveau maximal d'imposition, sachant que ce niveau maximal serait très inférieur à celui que nous avons aujourd'hui et qui est précisément très handicapant et pour la croissance et pour les libertés individuelles.
Qui pour la première fois a dépassé les 1000 milliards de prélèvements obligatoires en 2017.
Oui, c'est terrible. Ah, oui.
C'est difficile de fixer un ratio idéal. C'est comme la question des taux pour un barème progressif ou pour un taux proportionnel. On n'a pas véritablement de niveau idéal.
Le niveau idéal, c'est pour le citoyen, c'est 0%. Enfin, disons.
Philippe Nemo, oui, c'est 35%, je crois, dans son livre Philosophie de l'impôt, qui était déjà le ratio que donnait le général de Gaulle, qui disait au-delà de 35%, on bascule dans le collectivisme.
Je crois qu'on ne peut pas fixer. On peut pas fixer a priori un montant minimum, mais précisément, il faudrait expérimenter. Et je crois qu'il faut partir de l'idée que tout impôt a des conséquences fâcheuses parce qu'il est une atteinte au droit de propriété légitime. Et l'impôt détruit les incitations productives. Plus les gens payent d'impôts, moins ils sont incités à créer des richesses. Donc il faut toujours essayer de réduire au maximum les impôts.
Tout à l'heure, ça n'est qu'un mal nécessaire, mais il faut toujours le considérer comme un mal nécessaire.
Bien sûr, dans la mesure où il y a... On parlait à l'instant des fonctions régaliennes, mais elles aussi, elles ne peuvent pas forcément être définies de manière parfaite, a priori. Et c'est pourquoi ce qui a été souligné précédemment, à savoir qu'il faudrait de la concurrence, ça me paraît excellent. Il y a une théorie économique qui s'appelle la théorie des biens publics, dans laquelle on explique que les biens publics, ceux qui sont produits par l'État, sont justifiés par le fait que si c'était pas l'État, eh bien, personne ne financerait, par exemple, la défense nationale librement, parce que il se dirait, mais si les autres financent, j'ai pas besoin moi de financer.
C'est et si chaque passager clandestin.
Voilà, les passagers clandestins.
Ah oui, bien sûr.
Mais alors précisément, si l'État prétend que il produit des biens et services qui ne seraient pas produits s'il n'était pas là, eh bien, il ne devrait pas craindre la concurrence, puisque la concurrence oui. ne devrait pas supprimer ses activités. Mais bien entendu, souvent, l'État prétend être le seul à pouvoir faire un certain nombre d'activités, alors qu'elles seraient bien mieux réalisées par le secteur privé. Donc, le fait d'introduire la concurrence est une chose, je crois, fondamentale pour découvrir peu à peu ce qui est véritablement, ce qui relève véritablement des fonctions étatiques. On a parlé tout à l'heure de la sécurité sociale, de l'assurance santé. C'est un domaine, bien sûr, où la concurrence serait souhaitable. Et je crois que dans tout ce qu'on appelle les dépenses sociales, ça serait le cas. Même l'assurance chômage, parce qu'il y a beaucoup de moyens pour faire en sorte qu'un individu qui se trouve pendant quelque temps sans ressources, sans travail, eh bien pour qu'il puisse quand même subvenir à ses besoins. Et la concurrence permettrait de trouver les meilleures solutions.
Simone Vaplaire.
Alors, moi, je crois que dire il faudrait tel taux d'imposition, c'est un peu justement une approche constructiviste.
Certes.
Pourquoi ne pas laisser les gens décider ? C'est ce que...
La démocratie directe, alors.
C'est la démocratie directe. À eux de voir. Prenons une image avec une copropriété. Vous avez des grosses copropriétés, vous avez des petites copropriétés. Vous avez un conseil syndical, vous avez un syndic de copropriétés. Il y a des copropriétés qui veulent des gardiens, il y a des copropriétés qui veulent des espaces fleuris. Les charges augmentent, mais c'est eux qui le décident. Et puis si les charges augmentent trop, eh bien à un moment, des mesures sont prises. Donc pourquoi ce serait différent avec l'administration d'un État ? Je ne vois pas tellement. Et en général, quand les gens vous disent « Ah oui, mais c'est pas pareil, on est un État, c'est différent. Alors la grandeur de la France, ceci, cela. » Et puis, quand on creuse un petit peu...
La France est naturellement grande, elle est grande par son histoire, elle n'a
voilà.
pas besoin de...
Voilà, et puis
de...
quand on creuse un petit peu, ben, on s'aperçoit que finalement, il y a des désaccords, que des gens sont d'accord pour payer l'impôt pour telle chose, mais le voisin, lui, il estime que finalement, à la limite, il subventionne des choses qu'il réprouve, lui, moralement. Alors qu'on ne peut pas discuter des fonctions régaliennes, tout le reste se discute.
Oui, mais alors c'est pour ça que l'État s'est emparé de la solidarité ou de l'écologie, parce qu'il sait bien que, précisément, c'est des choses qui, telles quelles, ne se discutent pas. Si on soumet tout au vote...
Comment ça, problème... la solidarité, ça peut se discuter?
Ah non, mais bien sûr, non, mais moi je suis complètement d'accord sur le fait de pouvoir le discuter, mais je veux dire, c'est toujours présenté comme quelque chose qui ne peut pas se discuter.
Oui, d'indiscutable,
et alors,
voilà.
Et alors, même...
alors que ça peut se discuter, ça alors... doit se discuter.
Et alors même que c'est un facteur de misère, enfin, notre président l'a disait que la France était un pays très sensible aux inégalités, qu'on avait plein de moyens de lutter contre, mais c'est un pays beaucoup plus inégalitaire que la Suisse, par exemple. On revient à cet exemple, hein. L'écart des salaires qui commence beaucoup plus haut en Suisse finit aussi beaucoup plus bas, on va dire, enfin, surtout si on extrait les quintiles inférieurs et supérieurs pour avoir une comparaison qui a une valeur statistique, disons, hein. Et donc l'écart en France est bien plus important. Alors il y a l'écart avant impôt qui évidemment est énorme, mais même l'écart après impôt, après redistribution est plus élevé en France qu'il ne l'est
Et puis on pourrait parler redistribution, parce que sur quoi se fait la distribution? Alors,
oui.
En fait, là, il y a un problème, c'est où la distribution est mal faite. Des gens ont quelque chose en l'échange de rien, par le vol, par la malversation, etc. C'est pas parce qu'on vole un voleur qu'on rend la société plus juste. Il faut changer les règles pour empêcher le voleur de voler.
Certes.
Oui. Donc, la redistribution est en soi un non-sens. C'est les lois de la distribution, sont-elles bien faites ou sont-elles mal faites? Personne ne s'émeut qu'un footballeur star d'une équipe gagne beaucoup plus...
Un footballeur étoile, alors, oui.
Oui, étoile. gagne beaucoup plus qu'un type qui tape vaguement dans le ballon un week-end dans un trou de province. Ça ne dérange personne.
Alors, pourquoi ça dérange... Parfois, ça dérange certaines personnes quand même. Mais bon, c'est une autre une autre question. Mais moi, je veux aider notre président Macron. Alors, je voudrais pouvoir lui dire, à l'issue de cette émission, quel est le taux de taxe sur le salaire qu'il faut faire passer demain matin, hein, avant même de passer tout ça à la démocratie directe. Alors, le problème de la démocratie directe, c'est bien évidemment que tous les pauvres vont voter pour un ISF maximal. Le fait de ratisser totalement, laminer, disons, les fortunes de Bernard Arnault, parce que ça ne leur coûte rien. Alors, à partir du moment où vous avez un impôt proportionnel, effectivement, ça devient intéressant. Si constitutionnellement presque l'impôt est proportionnel, bon ben les gens savent que s'ils ont 1000 euros, ils payent 15%, mettons. Ils savent que celui qui a 10 000 euros paye 15%. Si on les fait voter pour 16 ou 17, ça s'applique aussi à eux. Et du coup, la démocratie directe a une vraie valeur en la matière. C'est que vous prenez une décision qui vous punit autant qu'elle punit le riche, disons, enfin en tout cas proportionnellement. Pascal Salin ?
Oui, je crois que ça serait bien d'évoquer un certain nombre des réformes qui, dans le système actuel, seraient malgré tout indispensables. Et il me semble que la diminution, ou si possible la suppression de la progressivité de l'impôt, est une priorité. Est une priorité pour deux raisons. Pour des raisons morales, d'abord, parce que c'est une injustice fiscale qui n'a pas de justification. Et puis par ailleurs, il y a une justification utilitariste, à savoir que la progressivité de l'impôt punit ceux qui sont les plus innovateurs, les plus travailleurs, les plus productifs, etc. Et il ne faut pas s'étonner si une partie de ces personnes s'exilent, ce qui est une perte pour le pays. Donc la progressivité est nuisible pour tout le monde, puisqu'elle réduit la création de richesses. Donc c'est, me semble-t-il, vraiment une progressivité. Et d'ailleurs, c'est tout à fait caractéristique de voir que dans les pays où on a diminué ou même supprimé la progressivité, eh bien, il y a eu une relance économique importante. C'est le cas aussi bien, par exemple, aux États-Unis sous Reagan, que dans la Nouvelle-Zélande, où la décision a été prise par un gouvernement de gauche, comme quoi on peut être...
Contraint par une situation de faillite terrible, mais disons, on est bien dans la même.
Et dans les deux cas, on a eu des taux de croissance importants. Ou alors également, il y a le cas de l'Estonie. Lorsque l'Estonie a été libérée du communisme, le Premier ministre était un historien qui ne connaissait rien à l'économie, mais il a lu un livre de Milton Friedman. Et il s'est interrogé: comment peut-on faire en sorte que les gens développent des entreprises? Et il a décidé justement la flat tax, c'est-à-dire l'impôt proportionnel sur le revenu. Et pendant des années, l'Estonie a eu un taux de croissance de 8%, le plus élevé parmi les anciens pays communistes. Et beaucoup de pays anciennement communistes ont imité l'Estonie avec succès. Donc on a quand même des exemples qui sont tout à fait frappants sur l'intérêt qu'il y aurait à remplacer l'impôt progressif par un impôt proportionnel.
Victor Fouquet.
Et très longtemps, d'ailleurs, l'impôt juste était le seul impôt proportionnel. On se fondait sur l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui exige une contribution commune à raison des facultés. Et ce « à raison des facultés » appelé un impôt proportionnel. Ce n'est qu'à partir de la fin du 19e siècle, avec les théories marginalistes, qu'est apparue la progressivité. Et en France, le premier impôt progressif, c'est l'impôt successoral mis en place par Raymond Poincaré. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'aujourd'hui, une réforme qui constituerait à mettre en place un impôt proportionnel sur le revenu serait déclarée anticonstitutionnelle par le Conseil constitutionnel, qui, se fondant sur l'article 13, considère que le « à raison des facultés » appelle un impôt progressif. Il y a une analyse, une jurisprudence très anachronique, puisqu'on part d'une déclaration qui date de la fin du XVIIIe siècle pour justifier la progressivité qui elle-même n'est apparue qu'un siècle plus tard.
Oui,
c'est très surprenant.
Oui. Eh oui. Et on pourrait justement dire que l'égalité devant l'impôt implique la proportionnalité et non pas la progressivité. C'est par définition un impôt injuste. Et je suis surpris justement qu'il n'ait pas été attaqué du point de vue constitutionnel.
Alors moi je voudrais préciser un point. Souvent dans la pensée libérale, beaucoup de révoltes fiscales ont eu pour objet pas de taxation sans représentation. hein, dans l'histoire. Donc, les gens disaient, on veut bien payer les impôts, mais il faut qu'on soit représenté, qu'on ait voix au chapitre. Voilà. Aujourd'hui, on a créé un système en France où il y a une représentation sans impôts. Si je reçois quelque chose en l'échange de rien, ce qui est un peu, ce qui est une anomalie économique, eh bien, j'en voudrais toujours plus. Mais pourquoi je vais me gêner ? Ça, c'est donc.
Alors, il y a des gens qui ont l'illusion de ne pas payer l'impôt, mais tout le monde en France, même le plus, misérable des clochards,
on va prendre un exemple.
Paye énormément de taxes sur sa bouteille de vin.
Non. On va prendre un exemple très concret. Je prends un jeune qui peut moins de 30 ans, qui peut cumuler RSA, le RSA, une allocation logement, etc. Ce jeune a 1000 euros de revenus. Et vous prenez un apprenti pâtissier qui se lève à 4 heures du matin. Donc, il y en a un qui a 1000 euros de revenus sans rien faire. Et puis, vous avez l'apprenti pâtissier qui se lève à 4 heures du matin, qui, lui, alors, s'il a 16 ans ou 17 ans, il vote pas, déjà. Et il touche moins d'argent. Et il fait quelque chose. Donc, il y a quand même une injustice financée par mes impôts. Mais il y a ce que j'estime être une injustice sociale flagrante dans ce système. Donc, il faut supprimer tout ce qui permet, sauf évidemment les cas de gens qui ne peuvent pas contribuer, il faut supprimer tous les systèmes qui donnent quelque chose en échange de rien.
Alors, beaucoup de commentaires. Un auditeur nous dit, dans les fonctions régaliennes, vous avez oublié la diplomatie. Alors absolument, la diplomatie fait partie, ainsi d'ailleurs que les institutions démocratiques, disons, font aussi partie de... Alors ça ne représente pas grand-chose, même si on a, je ne sais plus combien, je crois une centaine d'ambassades de plus qu'il n'y a de pays dans le monde, dont l'ambassade des pôles qui a été dévolue du pôle Nord, je crois, d'abord à Michel Rocard, puis à Ségolène Royal, oui.
Bah, c'est normal que la prêtresse du réchauffement climatique aille s'attiédir dans les pôles.
C'est ça. Donc, et de la démocratie participative qui nous est si peu chère, mais qui fait un grand retour en force en ce moment. Avec ces blabla dont vous parliez tout à l'heure. Alors, un auditeur nous dit « Bravo et félicitations pour cette émission. Vive la démocratie directe et bonne chance pour le nouveau mouvement de Simone Vapler. La France manque cruellement de démocratie directe et de libéralisme économique. » Donc ben voilà, ça vous fait déjà un vote.
Oui. Très bien. Alors, ce n'est pas mon mouvement. Mais voilà, c'est un mouvement que j'ai rejoint avec enthousiasme.
Un auditeur nous dit « Ce sont des... » Alors, je préfère dire stupidité, parce qu'il n'est pas un gros mot. Oui. Pas de gros mot à l'antenne. « Rendre l'intégralité de leur salaire aux salariés, nous dit-il, c'est une grande utopie. Tout le monde n'est pas capable de prendre ses assurances et les salariés le veulent-ils vraiment? Ce modèle que vous prenez est digne des plus grandes utopies libérales libertaires du 19e et 20e siècle, à tel point qu'il n'existe pas, à ma connaissance, même dans les pays les plus libéraux.
C'est faux.
États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, etc. Réduire les prélèvements sociaux et salariaux sur les salaires, oui, pour augmenter les salaires directs, ce que nous pouvons souhaiter. Voilà, donc c'est pas parce que ça n'existe pas avec le monde et rentrer dans une grande nuit socialiste.
D'ailleurs, ça existe en Suisse, ça existe dans beaucoup de pays.
En Suisse, par exemple, la retraite, il y a quand même trois piliers de retraite.
Oui, alors, pas la partie retraite, mais la partie maladie et chômage existe de cette façon en Suisse.
Alors le chômage, il y a quand même un taux de prélèvement, d'ailleurs, qui dépend du niveau de chômage. Donc à chaque fois, ça pousse les Suisses à être très vigilants sur leur voisin qui fait semblant d'être au chômage, parce que bien évidemment ça fait monter à chaque fois un petit peu sur leur feuille de salaire le niveau de prélèvement destiné à cette assurance chômage. En l'occurrence, il est, je crois, le chômage actuellement en Suisse de 2,6%. Ça fait rêver, voilà.
Mais je trouve aussi triste que souvent on a des remarques, les gens ne sont pas capables d'eux. Il y a une démarche constructiviste qui revient toujours à dire les gens ne sont pas capables d'eux. Mais je trouve ça assez insultant, en fait. Alors, à ce moment-là, c'est pas compatible avec la démocratie.
Alors, un auditeur nous dit « Vous parlez du libéralisme, mais que pensez-vous du national-libéralisme ? Nous serions contents d'entendre M. Nicolas Lecossin. Merci pour cette belle émission. » Alors, Nicolas Lecossin, parle plus à cette émission, mais c'est toujours quelqu'un, enfin, je le vois presque quotidiennement, et donc je citais d'ailleurs tout à l'heure son article dans le bulletin de l'ALEPS. Je pense que le libéralisme est la vraie idée des patriotes, en fait, puisque c'est des gens qui ont confiance dans leur pays et qui pensent que si on libérait un petit peu toutes les forces de ce pays, ça deviendrait le plus beau pays du monde. Ensuite, je je m'en tiendrai quand même, pour ma part, à libéralisme. Je n'irai pas au-delà.
Alors, je peux
mettre
mon grain de sel.
Mais bien sûr, vous êtes là pour ça.
Aujourd'hui. En fait, national-libéralisme, eh bien, si cet auditeur veut dire que les systèmes politiques et législatifs doivent être en concurrence, tant mieux, parce qu'un gouvernement mondial faisant des bêtises mondiales, financé par un impôt mondial, ce serait difficile à reprendre en main. Donc le national-libéralisme, c'est-à-dire des frontières pour mettre en concurrence des systèmes politiques et juridiques, tant mieux. Et d'ailleurs, si la Suisse, la gouvernance suisse fonctionne si bien, est-ce que c'est pas parce qu'il y a des frontières cantonales qui permettent de mettre des cantons en concurrence, finalement?
Bien sûr, bien sûr. Il y a 26 cantons qui ont des lois très différentes. Il n'y a pas d'harmonisation, alors qu'on veut faire une harmonisation européenne. Eux-mêmes ne sont pas harmonisés. C'est le cas d'ailleurs des grands pays démocratiques. Les États-Unis non plus. Entre le Nevada et New York, il y a énormément de législation. Entre tous les États, il y a énormément de législation très différente. Et il y a pour le coup une concurrence légale, concurrence réglementaire, qui est passionnante, puisqu'elle fait évoluer les droits de tous ces États ou tous ces cantons. Et nous devrions nous en inspirer.
Donc voilà, vive le local libéralisme.
Et on retrouve ces débats lorsque l'on parle d'harmonisation fiscale ou d'intégration européenne.
Ah, bien sûr.
Les intégrationnistes ou les partisans de l'harmonisation, notamment fiscale, en France, aimeraient calquer le modèle qui pour eux est un modèle de l'État-providence au niveau européen. Mais les Irlandais ne veulent pas d'un impôt sur les sociétés à 33%, pour ne prendre que cet exemple-là.
Absolument. Les gouvernements français ont toujours voulu exporter leur système, et l'harmonisation fiscale est un moyen pour eux d'exporter leur mauvais système.
Alors, une auditrice, vous dites que les Gilets jaunes ont des revendications très critiquables. Alors, je ne crois pas avoir dit ça, mais nous aimerions avoir une liste de ces revendications critiquables. Alors, du coup, je suis bien incapable de les donner. Je suis mécontente de votre émission qui fait passer les Gilets jaunes pour des analphabètes, ceux qui ne le sont pas. Non, j'ai jamais dit que les Gilets jaunes étaient des analphabètes. Je dis seulement que un mouvement qui, au départ, me plaisait beaucoup pour ses revendications, mais pas pour la révolte, parce que je n'ai pas le goût de la révolte, disons. Je préfère les institutions démocratiques.
En matière fiscale, peu de leurs revendications sont quand même satisfaisantes. On parlait du rétablissement de l'ISF. Ils veulent revenir également sur le prélèvement forfaitaire unique, ce qu'on a appelé un peu abusivement flat tax, puisqu'une véritable flat tax ou impro proportionnel consistera à avoir un taux unique sur l'ensemble de l'assiette fiscale et pas seulement sur les seuls revenus de capitaux mobiliers.
Bien sûr, oui.
Les pays nordiques ont un taux unique sur les revenus de capitaux mobiliers mais aussi les revenus fonciers, ce qui n'est pas le cas en France. Autre mesure critiquable, on en parle beaucoup ces jours-ci, qui part, je crois, d'un postulat idéologique erroné, sans doute inspiré du keynésianisme, comme le disait tout à l'heure Pascal Salin, c'est l'idée d'une TVA à 0% sur les produits de première nécessité, qui part de l'idée fausse, à mon avis, que la TVA est un impôt sur la consommation, ce qu'elle n'est pas.
Elle n'est pas.
Son nom l'indique fort bien, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la rémunération du travail plus la rémunération du capital.
Donc c'est l'équivalent de l'impôt sur le revenu.
Absolument. En
fait. Ce qui veut bien dire que, comme on le disait tout à l'heure, les gens payent des impôts sans vraiment le savoir, parce qu'ils ne les payent pas directement, mais indirectement.
Mais ils en paient beaucoup, le courant. Bien sûr. Alors, un auditeur... Alors, je vais juste peut-être rappeler que nous sommes sur Radio Courtoisie, que l'émission s'intitule Libre Journal des Économistes, que nous recevons aujourd'hui Simone Vapler, Victor Fouquet et le professeur Pascal Salin pour parler sur le thème Grand Débat National, la fiscalité. Alors, Pascal Salin, vous vouliez dire ?
Oui, on a évoqué à plusieurs reprises l'ISF. Je crois que ça serait bien d'en parler un petit peu plus. J'estime pour ma part que il y a une surtaxation du capital, de manière générale, dans le système fiscal français, avec des conséquences qui sont néfastes, parce que le capital, c'est ce qui permet la croissance. On a tort d'opposer les catégories de gens, les capitalistes et les autres, etc. C'est l'intérêt d'un salarié qu'il soit associé à un capital aussi important que possible dans la production, parce que sa productivité est plus grande et donc son salaire. Donc vouloir nuire au capital, c'est vouloir nuire à tout le monde. Or, il y a toutes sortes d'impôts sur le capital, qui sont bien sûr l'ancien ISF, l'IFI maintenant, les droits de succession, les droits de mutation. Et puis, également, je crois important de souligner que l'impôt sur le revenu a une conséquence sur l'accumulation de capital. Parce que si vous prenez deux individus qui ont le même revenu, il y en a un qui consomme tout son revenu, la matière fiscale disparaît, puisque la consommation, c'est la destruction des biens. Si l'autre, il fait l'effort de diminuer sa consommation pour épargner, c'est-à-dire pour accumuler du capital, eh bien, ça, le capital qu'il va constituer peu à peu va être frappé par toutes sortes d'impôts. L'impôt sur le revenu, d'abord, sur le rendement du capital, et puis les différents impôts sur le capital. Donc, il y a une surtaxation du capital qui est très grave. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles la croissance est faible en France. Donc, ceux qui réclament qu'on restaure l'ISF ont totalement tort. Et ce qu'il faut par contre réclamer, c'est de supprimer totalement l'IFI.
L'impôt sur la fortune immobilière.
L'impôt sur la fortune immobilière. Cet impôt a été instauré pour un motif que je considère comme absolument injustifié. Il a été dit, par Emmanuel Macron en particulier, qu'il ne fallait pas imposer le capital productif, donc les placements financiers par exemple, et donc maintenir l'impôt sur la fortune uniquement pour la fortune immobilière. Mais cela me paraît absurde, parce que qu'est-ce que ça veut dire productif ? La finalité des individus, c'est d'obtenir des satisfactions. Et la production est un moyen pour cela, ce n'est pas une fin à la production. L'objectif d'une société, ce n'est pas de produire au maximum, mais c'est de produire de manière à avoir des satisfactions qui correspondent à ce que les individus désirent. Donc le capital immobilier, il est extrêmement productif, il est productif de satisfaction.
Surtout pour les 140 000 personnes qui dorment dans la rue en France. C'est ça qui est délirant.
Je crois que vraiment... avoir un logement, c'est une des priorités pour tous les individus. Donc on devrait considérer comme particulièrement prioritaire de ne pas surtaxer le capital immobilier. Donc on est là dans une absurdité fiscale totale et il serait normal de supprimer rapidement cet IFI et de le faire comprendre à la population.
Oui.
Oui, je voudrais... là flotte l'esprit d'un de vos invités... qui est décédé, Michel Leiter, et il estimait que le capital, en fait, c'était une invention marxiste et que le capital, c'est d'abord et avant tout de l'épargne.
Et le capitalisme est une invention marxiste, mais sinon le capital lui-même, les capitaux, ça existe, disons. Enfin, heureusement d'ailleurs.
C'est la granulométrie du capital, c'est l'épargne.
Bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que Pascal Salin recommande un impôt sur la dépense. Non pas d'ailleurs pour punir la dépense, l'idée n'est pas là, c'est uniquement d'isoler, enfin je vous laisse...
Je défends depuis longtemps l'idée qu'il faudrait remplacer l'impôt sur le revenu par ce qu'on peut appeler l'impôt sur la dépense globale, c'est-à-dire qu'on donnerait aux contribuables la liberté de soustraire de leurs revenus la partie qui est épargnée, pour la raison que j'indiquais tout à l'heure, parce que cette partie qui est épargnée, elle est réintroduite dans le circuit économique, elle va produire des richesses qui elles-mêmes seront taxées par différents impôts. Donc il faut renvoyer à plus tard le prélèvement de l'impôt sur...
Qui se fera. C'est-à-dire qu'il se fera le jour où il a fait fortune avec sa nouvelle entreprise, il ira en yacht à Saint-Tropez, et à ce moment-là...
Voilà, exactement. On accumule un capital, ce capital a des rendements, si on consomme le rendement, on paye de l'impôt. Mais pas si on investit de nouveau.
Il faut insister encore une fois sur ces effets de distorsion dus à la progressivité essentiellement. On est incité à préférer le loisir au travail à partir du moment où un effort supplémentaire est taxé lui aussi de façon supplémentaire. Et finalement, on s'aperçoit lorsqu'on s'intéresse au phénomène d'incidence fiscale que tous les impôts ont à peu près la même assiette fiscale. C'est ce que disait Pascal Salin. Un individu qui perçoit un revenu a deux possibilités. Soit le consommer, la matière est détruite, soit l'épargner, et dans ce cas-là, il va subir une cascade d'impôts sur l'épargne, il sera pénalisé à ce titre-là. Et ça nuit évidemment à l'investissement et donc à la croissance et donc à la résorption du chômage massif en France.
Je crois qu'à ce sujet, on pourrait ajouter la remarque suivante, c'est que effectivement, c'est une, une idée tout à fait juste que l'on trouve dans la théorie économique, que l'effort marginal est de plus en plus coûteux pour les individus. Et spontanément, les individus ont trouvé normal de payer davantage les heures supplémentaires. C'est bien l'indice que l'effort marginal doit être plus récompensé pour qu'il ait lieu. Alors, de ce point de vue-là, on évoque la possibilité, actuellement, ce qui avait été en partie réalisé par Sarkozy, de détaxer les heures supplémentaires des salariés. Mais là encore, on crée une injustice, parce que un membre de profession libérale ou un entrepreneur qui travaille davantage, qui fait des efforts supplémentaires, lui, il est puni par la progressivité de l'impôt. Donc le problème, c'est pas de détaxer les heures supplémentaires. Le problème, une fois de plus, c'est de supprimer la progressivité. Il faudrait quand même que on ait l'habitude en France de raisonner de manière rationnelle à partir d'une théorie économique qui soit justifiée pour mettre en place un système fiscal qui soit juste et qui soit cohérent.
Ça, c'est utopique, ça. Imaginez que...
c'est utopique, malheureusement. Oui. Oui, bon.
Alors, de nombreuses réactions de l'auditeur. Une auditrice, bonjour à tous, merci pour cette excellente émission. Merci, madame. Le système dit démocratie directe ne peut marcher que lorsque la population est homogène et a un bon niveau général d'instruction, d'une auditrice française résidente en Suisse.
Mais ce sera rétabli par le bon éducation.
Par le bon éducation et puis par la démocratie directe elle-même.
C'est-à-dire voilà. Il y a de l'apprentissage, bien sûr.
Il y a un apprentissage. Alors c'est là que c'est ridicule, d'ailleurs, de cette démocratie participative où on demande en 2 mois à toute la population française de donner toutes ses doléances sur tous les sujets. Hein, c'est que, précisément, c'est un apprentissage. Au fur et à mesure, les Suisses se sont rendus compte que... telle décision leur coûtait cher et que la prochaine fois, ils ne laisseraient pas prendre, et ainsi de suite. Donc,
c'est la vertu de la subsidiarité, de connecter le lien entre le financeur et celui qui bénéficie de l'aide qui est versée par l'État.
Et de la responsabilité. On est responsable, on subit les conséquences de cette décision.
Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, encore une fois, avec les différentes revendications fiscales. L'impôt et suffrage universel ne font pas toujours bon ménage. On trouvera toujours une majorité, 51% d'électeurs qui pourront se coaliser pour taxer à leur profit.
C'est pour ça que l'impôt progressif existe,
absolument.
Bien sûr.
Et la péréquation est dramatique aussi dans ce cadre-là, puisque précisément c'est déresponsabilisant, les impôts circulent comme ça d'une commune à l'autre. Et récemment, François Goulard faisait une conférence dans le cadre de l'école professorale de Paris, dirigée par Philippe Nemo. Et dans cette conférence, il est lui-même directeur de région, je crois Picardie ou Normandie, je ne sais plus. Il nous expliquait qu'il y avait 4 systèmes de péréquation entre les régions et que l'État était en train de mettre au point un 5e système de péréquation, s'ajoutant aux 4 autres. Hein. C'est-à-dire que c'est non seulement il y a une péréquation, mais c'est des usines à gaz inimaginables. Enfin bref. Un auditeur nous dit « Salutations courtoises à tous et toutes. J'ai entendu sur Radio Courtoisie un intervenant dire que le communisme était du libéralisme d'État. » Vous éclairez ma lanterne, s'il vous plaît. Alors, je ne peux pas éclairer ma lanterne, mais il faudrait me donner peut-être le titre de l'émission que j'aille l'écouter, que je sache un petit peu précisément ce qui a été dit, parce que je pense pour les gens
oui,
en tout cas dans ce
pas
studio,
d'interprétation possible.
Dans ce studio, oui, personne n'a de voilà. Un auditeur nous dit « Bonjour, j'ai 2 enfants handicapés qui émargent largement à la solidarité nationale, foyer d'hébergement, allocation adulte handicapé. Je paie annuellement l'équivalent de 2 mois de ma pension de retraite à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Quel homme serais-je si j'estimais payer trop d'impôts ?» Postscriptum nous dit bien cordialement, Postscriptum nous dit cet auditeur, je suis quand même pour la suppression de l'impôt sur la fortune. Une réponse peut-être. Alors, les personnes handicapées, les orphelins sont les.
Bien sûr, c'est la seule justification de la solidarité.
Voilà.
On pourrait très bien aussi imaginer que les parents prennent une assurance avant la naissance de leur enfant, lorsque la mère est enceinte, pour le cas où il serait handicapé.
Oui, on peut dériver vers l'eugénisme hein, aussi. C'est dangereux.
Avec donc, un petit aléa moral pour les alcooliques,
ouais,
mais bon,
voilà.
Ouais, non, mais tout à fait. Il y a de nombreux auteurs libéraux effectivement qui proposent ce système d'assurance prénatale, disons, enfin, voilà. Mais même dans le cadre français, enfin, de même qu'on parlait tout à l'heure des 60 euros d'État régalien sur 1000 euros. Je ne crois pas que les personnes handicapées et les orphelins représentent les 940 euros restants.
Voilà, la véritable solidarité.
Très loin s'en fout. Je crois que ça ne choque personne.
Mais je crois qu'il faut peut-être distinguer deux choses. Parce que l'assurance, en un sens, c'est un système de solidarité, puisque il y en a qui payent pour les autres, pour ceux qui subissent des risques. Mais la vraie solidarité, c'est la générosité. Et la générosité, c'est quelque chose de personnel. Et il est frappant de voir justement que la générosité est moins importante dans un pays comme la France où il y a beaucoup d'impôts que par exemple aux États-Unis où c'est considéré comme socialement désirable que les gens soient généreux.
Mais alors la charité, c'est de la solidarité avec de la démocratie directe.
Avec la solidarité,
parce qu'on choisit concrètement,
on choisit son cas
à l'égard de qui on veut être généreux.
Exactement.
La solidarité exige la réciprocité.
Situation.
Mais alors, pas tous à la fois. Oui. Alors vous disiez.
Non, la solidarité appelle la réciprocité. Il n'y a rien de solidaire quand le système fait que c'est toujours unilatéral et que les financeurs sont toujours les mêmes et les bénéficiaires. Et on retrouve les effets destructeurs évoqués tout à l'heure.
Un auditeur nous dit que c'est impossible de réduire les dépenses publiques car il faudrait arrêter l'assistanat de l'immigration, j'imagine. Oui, enfin, déjà, si on supprimait l'émigration, c'est-à-dire tous ces riches qui partent à l'étranger,
oui,
ça irait beaucoup mieux. Et puis là aussi.
Puis oui. Je veux dire, si on arrête de donner quelque chose en échange de rien, je pense qu'il y aura moins de. Ça se bousculera moins aux frontières, je ne sais
sûr.
Pas, mais voilà.
Bien sûr. Non, enfin, je pense que d'ailleurs, c'est ce que cet auditeur. Suppose. Alors, un auditeur, bravo pour votre émission. Efforcez-vous de ne pas couper la parole à vos invités. Alors, désolé. Et par pitié, parlez moins vite. Vous êtes par moments incompréhensible en gras. Bon, alors je vais.
Il a trop d'idées.
Ne croyez-vous pas que la Française des Jeux, bingo, etc., ne sont-ils pas une forme d'impôt ? Alors, c'est un monopole. Donc, c'est un monopole d'ailleurs qui a été très entamé, mais en tout cas, il continue de conserver beaucoup d'aspects d'un monopole. Et ce monopole, effectivement, se permet de taxer largement les joueurs de loto ou de.
Oui, mais c'est volontaire. Il y a un consentement à cet impôt. Moi, j'ai toujours pensé d'ailleurs que si un jour on faisait une loterie, les gens viendraient peut-être payer plus en disant, vous avez été tiré au sort pour ne pas payer d'impôt cette année.
C'est ce qu'Ayn Rand propose. Enfin, elle proposait pas ça, mais elle proposait. Effectivement que c'est ce qui se passe à Monaco d'ailleurs, seule la société des bains de mer propriétaire des casinos utilise une partie de l'argent qu'elle récolte disons pour financer le rocher. Bon, ça fonctionne très très bien, c'est le pays le plus riche du monde je crois au mètre carré ou par habitant, enfin bref, donc voilà, mais c'est une solution. Alors néanmoins, si vous êtes joueur, si vous considérez que ça fait partie des plaisirs de la vie de jouer comme d'autres, je sais pas quoi, fument ou voilà, peut-être que ça vous choque que votre vice soit taxé exagérément, disons, et vous préfériez évidemment que tous les gains soient redistribués, enfin, à part évidemment ce que le casino ou la loterie prend pour elle-même. Une auditrice, je suis étonnée de ce que vous dites parce que l'impôt proportionnel, nous l'avons déjà en France depuis longtemps. Il suffirait de l'augmenter et de supprimer l'impôt sur le revenu. On a déjà cette flat tax, donc il est inutile d'en remettre une autre, ce qui compliquerait beaucoup et serait très impopulaire. Alors la CSG, j'imagine, oui, vous parlez de la CSG, je suis d'accord avec le salaire direct. Alors la CSG, oui, mais la CSG, effectivement, oui, s'additionne aux autres. Et puis il est surtout question, hélas, de transformer la CSG en impôt progressif. Alors c'est ça qui nous en éloigne. Mais sinon, vous avez tout à fait raison. Et d'ailleurs, c'est parce que c'est un impôt proportionnel que la CSG rapporte tant. Tout le monde, c'est un impôt sur tous les salaires. Une auditrice nous dit « Bonjour madame, messieurs, si pour nous brider d'encore plus près, l'État prévoit de supprimer l'argent papier en euros, pourquoi ne pas contourner le stratagème en utilisant une autre devise, telle que la livre, le dollar, le zloty ou le franc suisse ?» Et de cette façon, la Grande-Bretagne, les USA, la Pologne ou la Suisse s'en trouveraient bien. Alors il y a un cours légal en France, une obligation de recevoir... des euros en extinction d'une dette, on va dire. Et donc,
surtout oui. En extinction de la dette impôt. C'est l'impôt qui crée la demande de monnaie, ne l'oublions pas.
Alors, qu'est-ce que vous maintiendriez comme impôt ? Parce que je crois qu'on a 380 impôts, on ne va pas tous les passer en vue, lesquels resteraient faudrait-il conserver pour pour 2020 ?
Eh bien, on pourrait conserver la TVA, on pourrait conserver la taxe d'habitation, parce que c'est un impôt qui, lui, est concret, qui est proche des gens concernés. Mais supprimé, oui, tout, pratiquement
l'impôt
tous les
sur les sociétés, alors, qui est à 33% en France, qui est énorme. En Irlande, il est à combien, Victor Fouquet?
12,5%, la moyenne européenne, c'est 23%. Il y a une trajectoire de baisse qui est...
À 25, l'idée,
à 25,
c'est
d'arriver à 25. D'ici 2022, voilà, en prétendant tendre vers la moyenne européenne, qui déjà aujourd'hui est à 23%, sans du coup prendre en compte les baisses à venir dans les autres pays. Donc,
Oui, alors, je crois qu'il faut quand même dire la chose suivante à propos de l'impôt sur les sociétés, à savoir que c'est à tort que l'on prétend que les entreprises payent des impôts. Une entreprise, c'est un ensemble de contrats. Un contrat ne réfléchit pas, n'agit pas et ne paye pas d'impôts. Ceux qui payent des impôts, ce sont les signataires des contrats. Donc, c'est le cas de la TVA, c'est le cas de l'impôt sur les sociétés, et les deux sont assez semblables. Autrement dit, si, par exemple, l'État augmente la TVA, immédiatement, ce sont bien sûr les propriétaires des entreprises qui vont être obligés de supporter le coût, parce qu'on ne peut pas augmenter les prix sont donnés par le marché monétaire, etc. Et puis ils vont essayer peu à peu de répercuter, par exemple, sur les salariés, sur leurs fournisseurs, etc. Mais on ne sait pas exactement comment. Et je crois qu'il en est de même pour l'impôt sur les sociétés. Si on augmente l'impôt sur les sociétés, eh bien, les propriétaires d'entreprises vont essayer de répercuter en partie. Donc, il serait justifié de ne pas avoir d'impôt sur les sociétés, précisément parce que il est ambigu, on ne sait pas exactement qui en supporte effectivement le poids, mais dans la mesure où il existe, c'est peut-être pas la première des priorités, pour les raisons que nous avons discutées précédemment. Je considère comme plus important de supprimer la progressivité de l'impôt sur le revenu, parce que ça a un effet direct sur les incitations productives des individus. L'impôt sur la société n'a pas tout à fait les mêmes conséquences.
Alors, bonjour, pourquoi ne pas avoir choisi l'impôt sur le revenu à taux unique plutôt que la réforme mise en œuvre qui est une charge? Alors, je pense qu'il parle du recouvrement à la source. Que la réforme mise en œuvre, qui est une charge de plus pour les entreprises.
Bien sûr.
Cordialement, alors ça, on est tout à fait
bien
d'accord.
Sûr, mais
d'accord. Vous faites l'unanimité.
Voilà. Bien sûr. Mais c'est parfait. En fait, ça transforme les entreprises. Les entreprises, jusque-là, n'étaient collecteurs d'impôts que vis-à-vis de leurs clients, en fait, via la TVA. Et puis, les voilà maintenant transformés en collecteurs d'impôts vis-à-vis de leurs salariés. C'est merveilleux. C'est extraordinaire.
Ouais. Alors, un auditeur nous dit, si j'ai bien compris, il est possible d'avoir une couverture sociale auprès d'organismes privés. Alors, c'est pas du tout ce qu'on a dit. Aujourd'hui, ça n'est pas possible.
Si, c'est théoriquement, légalement possible.
Non, ça ne l'est pas. Non, je suis formel.
Pour les salariés, oui.
Ça ne l'est pas. C'est un auditeur, d'ailleurs, a fait une enquête poussée, disons, sur le fait que cette disposition n'existait pas en Europe. Et donc, il n'était pas possible. Enfin, déjà, les lois européennes ne s'appliquent que si elles sont votées par l'Assemblée nationale, etc. Enfin,
oui, alors...
Donc, de toute façon, les dispositions européennes, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà,
les directives
européennes.
Ces directives, voilà. Il y a un autre nom administratif, mais peu importe. Ces directives ne s'appliquent que si elles sont votées par le pays. Donc, déjà, la France n'a pas voté la suppression de la sécurité sociale ou la liberté pour les gens de s'assurer. Et cet auditeur qui a fait une longue enquête m'avait envoyé nombreuses preuves, disons, du fait que il n'y avait pas du tout de directive européenne pour ce qui est des assurances principales, disons.
Voir chez nos voisins suisses, allemands, etc., voir un bulletin de paye, voir comment c'est fait.
Ça qu'ailleurs on puisse le faire, j'ai pas de doute. Non, je parlais pour un Français aujourd'hui. Il n'est pas possible oui. de s'assurer auprès d'organismes privés, même si les professions libérales, ce serait facile d'instaurer ça pour les professions libérales, mais pour l'instant, ça n'est pas du tout le cas. Une auditrice nous dit « Pourriez-vous nous indiquer approximativement le montant total de tous les flux monétaires bancaires financiers en France, s'il vous plaît ?»
C'est quoi des flux ? Je ne sais pas trop. Mais...
Le produit intérieur brut ne représente qu'une partie de ça. Enfin, disons, je ne sais pas.
Question très générale. Hein,
oui, oui. Alors, on n'a pas de réponse. Une auditrice, il y a une différence entre impôt progressif et proportionnel. Pouvez-vous l'expliquer rapidement aux auditeurs? Ben oui, c'est-à-dire que l'impôt progressif, il y a des tranches. Alors, quand vous ne gagnez pas beaucoup, vous êtes taxé sur la première tranche à 10%, par exemple. Et puis, sur la deuxième tranche au-dessus, ben, vous êtes payé, vous êtes taxé à 15%, puis à 20%, etc. Enfin, et à chaque tranche, évidemment, vous payez davantage. Et sur les dernières tranches, 60% ou 50%. Enfin, un impôt proportionnel, tout le monde paye la même chose, quelle que soit la tranche. Et même au bout de 4 milliards d'euros, vous continuez à payer le même 15% que...
Voilà, pour cadrer les idées, oui. Taux unique.
Voilà, c'est un taux unique, un seul taux et il n'y a pas de tranche.
Le seul pays à avoir un impôt strictement proportionnel, c'est la Géorgie, encore une fois. Même, y compris les pays d'Europe de l'Est prévoient à chaque fois un abattement à la base qui introduit une sorte de progressivité,
oui,
mais beaucoup moins progressive que les 5 voire 7 taux en France, si on y inclut la surtaxe Sarkozy avec des taux qui peuvent grimper jusqu'à 70% en effet.
Alors j'ai deux commentaires très longs que je ne vais pas avoir le temps de lire. Un sur le design to cost, disons, d'un Français qui a été expatrié en Afrique. Alors je vais le lire tranquillement et puis j'en parlerai au début de la prochaine émission, ainsi qu'un autre sur une réflexion autour de ce que M. Darmanin, ministre de l'Action des Comptes Publics, a dit. Alors, j'ai un auditeur qui nous dit pour le seuil de l'impôt sur la fortune de 1,3 million. Le seuil de l'impôt sur la fortune de 1,3 million euros est beaucoup trop bas. Il faudrait le relever au moins à 2 millions, car cela touche la classe moyenne et non pas les milliardaires. Alors, nous sommes contre l'impôt sur la fortune.
Façon, voilà.
Et de toute façon, le montant sera arbitraire, enfin, le niveau au-dessus duquel on lamine. Pascal Salon.
Et le taux aussi sera arbitraire. Parce qu'il faut quand même voir que si le taux maximum actuellement, c'est 1,5%. Si un capital a un rendement de 2 à 3%, ça veut dire qu'on confisque presque que la totalité de ce capital. Ça ne paraît pas très élevé, un taux de 1,5%, mais 1,5% du capital, c'est absolument considérable.
Ah ben bien sûr,
parce qu'il ne faut, pas comparer à la valeur du capital, mais au rendement du capital.
Sachant d'autant plus que les barèmes progressifs, hormis l'impôt sur le revenu, ne sont pas indexés à l'inflation. Donc c'est d'autant plus confiscatoire
exactement.
Que le barème n'est pas indexé chaque année.
Un auditeur solidarité forcée s'écrit vol. Et enfin, une auditrice nous dit c'est la TVA, impôt proportionnel, qui permettrait de supprimer beaucoup d'impôts, en particulier la CSG. Mais la TVA est déjà à 20%, ce qui est énorme. C'est-à-dire, il y a beaucoup de pays, je crois qu'en Californie, ça doit être 4,5%. Au Japon, ils ont manifesté dans les rues parce qu'on est passé de 4 à 8%. Enfin, en Suisse, on est à 8%, etc. Donc, à 20%, on est déjà au maximum.
Terminer sur un petit calcul déprimant.
Super rapide.
Super rapide. Hein.
Oui, oui.
Le salaire complet, donc c'est 80%, c'est ce qu'on vaut vraiment, donc c'est 80% de plus que le salaire. Et puis sur ce salaire complet, vous retirez ce que vous payez comme impôt. Et puis ensuite, vous allez chercher un litre de carburant à la pompe. Et vous faites tous les calculs. Sachant qu'il y a le prélèvement à la source, mais il y a aussi le prélèvement à la pompe.
Oui. Alors, merci aux auditeurs. Merci à nos invités Simone Vapler, Victor Fouquet et le professeur Pascal Salin. Le thème de l'émission du jour était Grand débat national, la fiscalité. Je remercie Jacqueline Balestier qui m'a aidé à préparer cette émission. Je remercie Benoît à la réalisation. Je remercie Enora et Micheline au secrétariat de Radio Courtoisie. Et je vous donne rendez-vous mercredi 27 février pour une nouvelle émission. Et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal des économistes, créé par Jacques Garello et dirigé par Olivier Mérès, diffusé en direct mercredi 30 janvier 2019 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.